Eh bien, bonjour à tous et merci aux organisateurs pour ce cinquième colloque des zones ateliers. Je vais donc vous parler du projet Azurev. C'est une zone de rejet végétalisé. Mais avant d'être une zone de rejet végétalisé, c'était une zone tout simplement d'épandage. Pourquoi une zone d'épandage? Parce qu'à la fin du 19e siècle, donc là on est situé sur la ville de Reims, il y a eu une explosion démographiquement et donc on arrivait à 100 000 habitants. Et donc il y avait un besoin d'assainir les eaux usées. Il n'y avait pas de station de traitement des eaux usées. Et donc, un contrat a été signé avec la compagnie des eaux vannes pour épandre à partir de 85 ces eaux usées sur une surface totale de 625 hectares. Donc, cette zone est située à l'ouest de Reims. Et le but, c'était de traiter de manière naturelle, par infiltration dans les sols, les eaux usées. Donc, il y a eu trois réseaux de distribution. Ici, nous avons la zone verte, c'est les basses terres, les terres basses. Nous avons la zone rouge, les terres moyennes. Et la zone bleue, les terres hautes. En 1957, ce contrat a été renouvelé pour 30 ans pour poursuivre l'épandage, mais il y avait une limitation à 40 000 mètres cubes par jour. Malheureusement, ce contrat n'a pas été respecté et entre 85 et 65, le débit épandu est passé de 35 000 à 80 000 mètres cubes. Pourquoi? Ben parce que tout simplement la population a grandi et il a fallu mettre en place un service pour limiter en fait cet épandage. C'est pour cela qu'en 65, une station-service a été créée pour limiter les débits journaliers épandus à 40 000 mètres cubes. De 65 à 2002, cette station a été améliorée pour améliorer la capacité de traitement et mettre fin aux épandages en 2002. Alors sur zone d'épandage, nous avons une occupation des sols qui est principalement de la culture au niveau des terres hautes et des terres moyennes, et des peupleraies, des marais, des tourbières au niveau des terres basses. Il y a un exemple qui est similaire. Le seul exemple similaire en France, c'est la plaine d'Achères. En 89, il y a eu création des champs d'épandage au niveau près de la ville de Paris. Bon, c'était plus conséquent. On était sur 2000 hectares et pas 600 hectares. Et l'arrêt des épandages a eu lieu en 2007, comme pour Reims, avec la mise en place d'une station de traitement des eaux usées. Alors, en 2002, à Reims, fin des épandages. En 2011, 10 ans après, naissance du projet Azurev. Donc, Azurev, c'est la mise en place d'une zone de rejet végétalisé. Donc, c'est une zone avec de l'eau et des plantes aquatiques à la sortie de la station du Grand Reims, sur l'ancien site d'épandage, bien entendu, pour, de un, améliorer la qualité des eaux usées traitées par la station d'épuration, donc améliorer au niveau de l'azote, du phosphore, mais aussi des micropolluants organiques, des micropolluants inorganiques et de la microbiologie. Effectuer le traitement des rejets urbains de temps de pluie, donc appelé RUTP. D'ici quelques jours, je vais vous montrer la zone. Enrichir la biodiversité du site des eaux vannes. Donc en 2016, 5 ans après, début des travaux, donc pour créer Azurev. 2017, fin des travaux et mise en eau d'Azurev. Et enfin, 2017-2021, mise en place du suivi de la ZRV. Donc la ZRV, la voici, qui est composée de trois bassins, B1, B2, B3. Elle est alimentée par temps sec par la station de traitement des eaux usées. Et par temps de pluie, la vanne qui est ici va se fermer et la vanne des eaux, on va dire pluviales, va s'ouvrir. Donc, ce qui différenciait théoriquement au tout début les bassins, c'était la végétation qui était implantée, végétation aquatique. Parce que le bassin B1 n'avait pas de végétation, le bassin B2 un peu plus et le bassin B3 beaucoup plus. Parmi les végétaux aquatiques plantés, seul subsiste Phragmites australis, le roseau commun. On va voir tout à l'heure que les autres végétaux plantés ont disparu et d'autres végétaux, donc des végétaux opportunistes, se sont développés. On le voit bien ici sur la vue aérienne que tous les bassins, en fait, sont recouverts d'un vert clair. Et là, ce sont des végétaux opportunistes qui se sont développés. Ce qui est logique, si on apporte des eaux usées traitées, elles contiennent encore de l'azote et du phosphore, donc des plantes peuvent se développer. Donc les végétaux qui étaient plantés au tout début étaient Glycéria maxima, Scirpus lacustris et donc Phragmites australis. Glycéria maxima et Scirpus lacustris sont un peu un aliment intéressant pour les ragondins. Donc les ragondins s'en sont servis pour se nourrir et donc elles ont disparu, contrairement à Phragmites australis. D'autres végétaux se sont développés, donc des végétaux opportunistes. Nous avons Ceratophyllum submersum et demersum. Ce sont des plantes submergées. Et l'Hemna minor, qui est les lentilles d'eau et qui se place à la surface de l'eau. Alors pour ces trois végétaux opportunistes, ils sont en proportion beaucoup plus importants que Phragmites australis. C'est pour ça qu'on a perdu cet effet végétation entre les différents bassins. Ensuite, d'autres espèces, mais en moindre quantité se sont développées. Sur cette zone, différents équipements ont été placés. Un échantillonnage mensuel est réalisé donc, via un drone aquatique pour faire des prélèvements dans les bassins, mais aussi pour faire des mesures d'oxygène dissous et de température. Un échantillonnage manuel en entrée et en sortie. Des prélèvements des sédiments, mais aussi de plantes lorsqu'elles se sont développées. Et ainsi qu'un suivi du couvert végétal. Donc là, c'est à l'aide de photos satellites et de drones aériens. Donc, lorsque l'on a fait nos prélèvements et que l'on va faire des analyses au laboratoire, il y a trois compartiments. Donc, on a l'eau, les sédiments et les plantes. Donc, je ne vais pas lister les tableaux que vous avez sous les yeux, mais c'est pour montrer toutes les analyses qui sont réalisées sur le site d'AzureV. Là, je vais me recentrer plus sur le côté épandage historique et la pollution que ça a pu engendrer dans les sols et le relargage que ça peut créer au niveau du site d'AzureV qui est situé en fait sur l'ancien site d'épandage. Donc la pollution, il y a eu un épandage des eaux usées urbaines pendant plus d'un siècle. On peut se poser la question de est-ce qu'il y a eu un enrichissement des sols en métaux et en éléments traces. Pour ce faire, deux études ont été faites en 85 par l'INRA et en 2013 par le LRGP au niveau des sols et une étude sur les sédiments en 2019 par le LRGP, donc après la mise en eau d'AzureV. Donc voici le tableau qui recense différents éléments qui ont été analysés. Et si on compare donc ces résultats, ces teneurs, aux moyennes dans les sols français, eh bien on s'aperçoit que les sols situés autour d'AzureV et les sédiments sont enrichis en ces éléments. Et là, la question au niveau des sédiments peut se poser, est-ce qu'il va y avoir un transfert de ces éléments des sédiments à l'eau? Eh bien, il y a deux événements qui se sont produits au niveau d'AzureV où il y a eu un transfert de ces éléments. Le premier événement, c'est lors de la mise en eau, le 12 juillet 2017. Donc en 2017, l'analyse des métaux et des éléments traces est faite par ICP Optique. Et à partir de 2018, ces analyses vont se faire par ICP-MS. Ça va avoir un impact sur la limite de quantification. Donc ici, en 2017, il y a eu détection seulement du fer et du zinc. Les autres teneurs pour les autres éléments étaient inférieures à la limite de quantification. Donc si l'on s'intéresse au fer, donc là, mise en eau en vert, les ronds verts de différentes nuances, ce sont les sorties. Et l'entrée représentée par les losanges, le losange rouge. Donc on voit que pour le fer, il y a eu un relargage, parce que les teneurs en sortie sont plus importantes que les teneurs en entrée, pour arriver à un équilibre. Alors que le zinc, lui, il n'y a pas eu ce relargage, donc on voit que là, deux éléments différents, il y a deux apparitions différentes de relargage. Donc là, c'est le premier événement. Le deuxième événement qui a entraîné un relargage, c'est le focardage. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a eu un développement, donc en 2018, développement important de Ceratophyllum, Demersum, Submersum et Lemnaminor dans les trois bassins. Le focardage est apparu donc, entre l'hiver 2018 et 2019, donc arrêt de l'alimentation. Focardage, ce qui représente 115 tonnes, donc la plupart, c'est des Ceratophyllum et un coût de 60 000 euros qui est important. Le 22 février 2019, il y a réalimentation des bassins. Donc ici, des photos de l'appareil, donc le bateau focardeur ramasseur qui a permis d'éliminer tous ces végétaux. Donc là, l'analyse cette fois des métaux et éléments traces est faite par ICP-MS. Donc on voit qu'on a un panel plus important des éléments détectés. Donc il y a le fer, le zinc, le manganèse, le cuivre, le nickel, l'arsenic, le chrome, le cadmium et le plomb. Donc là, ce que je vous ai présenté, je ne vais pas présenter tous les graphiques, mais on retrouve le zinc, donc on va dire qu'à partir de mars 2019, c'est la réalimentation après le focardage. Donc on voit qu'il n'y a pas un relargage. Contrairement au fer, où on voit très bien que les teneurs en sortie sont plus importantes aux teneurs en entrée pour arriver à un équilibre. Les profils pour l'arsenic sont similaires au fer. Et on voit aussi que le temps de réponse est de au moins 5 mois, ce qui est relativement long. Le cuivre a le même profil que le zinc. Donc, qu'est-ce qui a permis de remettre en suspension? Alors, je vais retourner sur la diapositive tout à l'heure. Donc, on voit que les bateaux focardeurs ont des chenilles, donc c'est-à-dire qu'ils ne flottent pas, qu'il va pouvoir rouler dans les bassins et donc remettre en suspension et labourer ces sédiments. Donc, c'est ça qui a permis la remise en suspension. Certains éléments, donc j'ai montré le fer à l'arsenic, mais d'autres éléments ont les mêmes profils, comme le manganèse, le chrome et le nickel. Et on peut se poser la question si ces éléments sont plus dans une fraction échangeable qui est importante, et donc que la remise en suspension, que le labourage a permis de les relarguer dans les eaux. Contrairement au cuivre, au zinc, mais aussi au cobalt et au cadmium, qui sont peut-être dans une fraction moins échangeable, plus importante. Alors là, il n'y a pas eu de spéciation qui a été réalisée au laboratoire, mais cela est prévu d'ici quelques mois. Donc on voit que lorsque il y a une mise en eau d'une ZRV ou d'une zone humide ou un focardage de la végétation, eh bien, il est important de penser à la remobilisation de ces éléments présents dans le substrat, que ce soit de manière anthropique ou enrichi de manière naturelle, qui pourrait avoir un impact négatif sur le milieu récepteur. Et on s'est basé sur les micropolluants inorganiques, mais on pourrait se poser aussi la question sur les micropolluants organiques. Donc, sans transition, je vais faire une petite diapositive sur un des objectifs pour moi qui est très important et qui est pour moi rempli cet objectif, c'est l'enrichissement au niveau de la biodiversité. Eh bien, c'est un environnement qui va être propice pour des animaux sauvages aquatiques. On remarque qu'il y a des mouettes, des canards, des cygnes, mais aussi la foulque, le grèbe castagneux, qui se sont servis des roseaux communs pour faire leur nid et se reproduire, mais aussi le fameux ragondin qui a mangé nos joncs et nos glycéries, des batraciens, des odonates, des plus petits animaux comme les pucerons ou ici des limnées, des gastéropodes. Et enfin, on a les êtres vivants microscopique, donc là ce serait des communautés bactériennes. Ce qui est une étude va être faite au niveau de cette zone sur 10 campagnes de prélèvement pour essayer de voir l'impact de la ZRV sur la communauté bactérienne entre l'entrée et la sortie. Donc c'est une zone qui a subi un épandage massif. On a 1,5 milliard de mètres cubes qui ont été épandus durant plus de 100 ans sur cette zone. Et une accumulation donc de divers composés. Donc là, on a vu les métaux, les éléments traces, mais il y a aussi des HAP qui ont été analysés et trouvés dans ces sols, des produits pharmaceutiques. Alors là, il n'y a que la gabapentine, ce qui a entraîné une pollution. Par-dessus donc cette zone d'épandage, il y a eu construction de la ZRV pour améliorer la qualité du rejet des eaux usées traitées. Donc là, j'ai parlé que de l'impact donc de rejet d'éléments lors de remise en suspension, mais il y a une qualité qui est meilleure en sortie parce qu'on permet de traiter, ça permet de traiter l'azote, le phosphore lorsqu'il y a la présence des plantes, parce que le phosphore est difficilement traitable par voie microbiologique. En station de traitement des eaux usées, c'est fait par traitement chimique. Il y a aussi un impact sur les micropolluants organiques, principalement les produits pharmaceutiques. On voit que certains produits pharmaceutiques qui sont les plus sensibles aux UV sont dégradés. Et aussi, bon, là on ne l'a pas vu, mais un impact intéressant sur les micropolluants inorganiques, donc les éléments, les traces éléments, parce qu'on n'a pas vu ici, mais le zinc est bien éliminé par cette zone humide, principalement dans les sédiments. Donc là, la remise en suspension et le lessivage de certains éléments dans l'ordre de la mise en eau et des travaux de focardage peut nous amener à la question de est-il nécessaire de réaliser ces travaux de focardage? Parce que même s'il y a un développement de plantes opportunistes, ces plantes opportunistes n'ont pas dégradé la qualité des eaux comparée à l'eau qui arrive en entrée de cette ZRV. Et on a vu que ça peut amener donc au lessivage, aux remises en suspension, mais cela a un coût aussi qui est relativement important. C'est un ouvrage qui est important pour la préservation de la biodiversité en péril, parce que l'urbanisation, l'agriculture grignote petit à petit ses habitats naturels. Et là, on voit que l'on a créé un habitat naturel pour certaines espèces. Elles se sont accaparées cette zone, elles ont pu s'alimenter, se reproduire, et donc on a amené une vie sur ce lieu qui est très intéressante. Pour les perspectives, ce serait de connaître la spéciation des métaux. Donc, il y a des éléments traces dans les sédiments, des changeables, réductibles, oxydables, en réalisant des extractions séquentielles. Et enfin, recenser de manière plus rigoureuse les espèces animales, parce que le recensement que vous avez vu à la diapo d'avant est fait lors des campagnes de prélèvement tous les mois. Et nous ne sommes pas des experts, et ce serait plus intéressant de faire une semaine par saison pour voir vraiment toutes les espèces qui qui se situe, qui tourne autour de cette ZRV. Et réaliser aussi un séquençage donc, de l'ADNR 16S, donc ça c'est prévu pour avoir l'impact de cette ZRV sur les communautés bactériennes. Je vous remercie pour votre attention.